est arrivé à la tête du club. On évoque tout cela dans ce stand d'Adourkin, un spécial avec les invités donc de ce soir. Deux minutes auparavant, je vous propose de réécouter semaine dernière sur ces mêmes antennes, bilan de cette saison sportive en compagnie de journalistes et consultants, Pascal Pommier pour France 3 Corse via Stella, Jean-Marie Ferré qui nous a accompagnés tout au long de cette saison et Jean Gourd côté supporter. C'est d'ailleurs ce dernier qui est le premier à attaquer ce bilan.
Stand à Dourkin, au contraste.
On est presque en train de dire qu'on a trouvé ça logique. Ouais. On finit dernier, on finit logiquement dernier parce qu'on a été dernier à tous les niveaux cette année, malheureusement. Même si je crois, on en parlera après, que ce nouveau coach, il a, à mon avis, essayé de faire du travail. Mais malgré tout, c'était trop tard. Et puis si on cite tout ce qui nous est arrivé depuis le début de l'année, c'est ahurissant, quoi. Voilà.
Ouais. On en fera peut-être la liste tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a ce sentiment, on croit au miracle, évidemment, on espère s'en sortir. Et puis, comme dit Jean, bon, une fois que c'est arrivé, c'est vrai qu'on ne peut que faire le constat que ça ne pouvait qu'arriver, quoi, vu évidemment la saison très difficile que le Sporting a vécue.
C'est même plus de la déception, enfin, c'est pas de la déception parce que c'était comme une forme de.
C'est de la déception préparée.
Voilà, c'est ça. C'est peut-être plus dur aujourd'hui parce que, effectivement, la réalité frappe plus aujourd'hui. Ça y est, on y est.
Il nous est arrivé tellement de choses. On est quand même, bon, avec Lyon aussi, on a joué que 37 matchs, nous. Notre équipe, on a joué 38, nous, on a joué que 37.
37 et demi.
Voilà, en battant Lyon, on s'aperçoit qu'on est sauvé. Donc ça va rajouter déjà au regret parce que c'est une saison cauchemar et pouvait que se terminer par une relégation.
Oui, voilà. Il y a le match de Lyon, il y a aussi le fait que le gros problème sportif du Sporting aurait été quand même le match à domicile. Foriani, 33 points perdus, quand on sait que le Sporting descend pour 2 points. Dans la balance, le déficit est énorme.
Ça doit être la première année où on a connu les années en dessous. Justement, on n'arrivait pas à gagner un point à l'extérieur et on était imprenable à Fouriagne. Et là, c'est l'inverse.
Peut-être aussi, après, je ne veux pas dire qu'on a été mauvais, mais on avait dit au début d'année, cette année, on a acheté 6 attaquants. Enfin, on a 6 attaquants. Et bien, malheureusement, il y en a les 2/3 qui ont disparu au milieu. Ouais. Le mercato. Donc il n'y avait rien qu'à aller pour marquer des buts. Il faut des joueurs. On ne les avait pas, quoi. On en avait un, c'était Crivelli, c'est tout. Personne d'autre qui marquait. Et Danish qui fait à Lorient un exploit.
Début de saison, dans le jeu, on montait quand même autre chose. On s'inquiétait pour la défense, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a monté quand même certaines possibilités. Et puis après, bon. Saint-Maximin a fait un très bon début de saison, donc on s'est dit on a la perle rare qui va nous aider. Et puis après, il y a eu le très bon début de saison de Caillou aussi. Tout ça a fait qu'on a fait un bon début de saison. Et puis après.
Jusqu'en décembre et au match de Rennes, la victoire de Rennes, et même le beau match contre Marseille aussi, perdu à domicile, il n'y avait pas trop d'inquiétude.
Cette année, je crois qu'on a eu 3 ou 4 matchs en semaine, le championnat. Nous, on a eu tous ces matchs chez nous. Le mercredi à 19h, c'est-à-dire de mémoire, hein. Ça veut dire que même ces matchs-là, il n'y avait pas beaucoup de public. J'ai l'impression que cette année, tout nous allait contre. On était particulièrement mauvais, et en plus, tout allait contre. On ne pouvait pas s'en sortir, on ne s'en est pas sorti, quoi.
Mais après, le grand inconnu, c'est comment on va repartir, quel dirigeant, et c'est un gros chantier qui va être mis en place, là.
Oui, mais après, moi, je ne suis pas forcément un spécialiste. J'ai envie de dire que le Sporting s'est construit, malheureusement, dans la difficulté. Bon, c'est un cycle. Je crois qu'il y a une dizaine de clubs en France qui font ça, et même en Europe, dans les championnats qui tournent. Est-ce qu'on va être capable de rebondir? Alors, c'est vrai que lui, il parle directement du futur. Il va falloir se poser et quand même comprendre ce qui s'est passé, même si c'est évident, et puis essayer de ne pas le reproduire. Après, je suis supporter. Dès que les abonnements seront en vente, on ira s'abonner, parce que le Sporting, il est dans notre cœur. Mais ça devait arriver comme ça. Et simplement, il faut voir qu'on ne refasse pas la même saison. On ne peut pas se disputer entre nous dans un stade. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être la risée de la France à Fourian. On ne peut pas mettre une écharpe bleue et blanche à Eder parce qu'il nous a failli nous marquer un but. C'était une année de fou, quoi, qui a donné un résultat qui est dernier du championnat, quoi, à tous les niveaux, quoi. Parce que si on avait eu les notes partout, on aurait été dernier au niveau sportif, dernier au niveau de l'organisation, de la communication. Moi, je suis un supporter normal. Et il faut que ça change et qu'on reparte de l'avant. Et puis nous, on a envie que ça reparte, quoi. Voilà, c'est tout. Hein.
Il n'y a pas que vous, il y a des joueurs. Et voilà. Les joueurs qui ont été le plus peinés, évidemment, enfin, qui en tout cas ressentent ça encore plus durement, c'est ceux qui restent au club et ce sont les joueurs insulaires. On va entendre l'un d'entre eux, Yannick Cahuzac.
Stondadourkine, l'Interbiste.
Je pense qu'on descend par rapport à tout ce qu'on a produit cette saison. Donc maintenant, il va falloir relever la tête, faire une bonne analyse de tout ce qui n'a pas été depuis quelques années pour repartir de l'avant. Souvent, dans la difficulté, on a su se relever et repartir de plus belle. Donc voilà, j'espère que ça sera encore le cas.
C'est la plus grosse déception pour toi depuis que tu portes le maillot bleu ou pas ?
Sincèrement, oui, c'est ma plus grosse déception parce que je pense qu'on avait tout pour réussir et on a été défaillant. Après, je ne sais pas où. Je pense qu'il faut vraiment en tirer certaines leçons et essayer de repartir de l'avant parce que je pense qu'on a un potentiel énorme à Bastia et je pense que le Sporting mérite largement sa place en Ligue 1 et j'espère qu'on retrouvera cette place le plus vite possible.
Parole de sage, parole de capitaine. On en a beaucoup parlé de Yannick Cahuzac dans la saison. Vous avez encore fait référence tout à l'heure, Jean-Marie. Est-ce qu'on peut penser que le creux, qui était assez long d'ailleurs, qu'a connu Yannick Cahuzac, en même temps les nombreux cartons rouges, les expulsions, enfin tout ce malaise, ce mal-être, peut provenir aussi de cette situation difficile, sportive, sur le terrain, mais aussi dans l'environnement du club ?
À un moment donné, bon, quand il y a beaucoup de situations contraires à la bonne marche du club, ça, les joueurs sont obligés de le ressentir et leurs performances s'en ressent aussi. Hein. Donc voilà, Cahu, c'est quelqu'un sûrement qui est peut-être un des plus investis avec Jean-Louis et tout. Et donc tous ces problèmes avec les dirigeants, voilà, les supporters, c'est sûr qu'il a sûrement plus mal vécu que les autres. Et ses performances se sont ressenties. Il a pris tous ses cartons, on ne sait pas. C'est pas anodin tout ça. Il faut pas croire que voilà, il commence très très bien la saison et puis après avec les difficultés, c'est difficile. C'est difficile pour un joueur.
Ouais. Autre joueur évidemment qui vit très mal cette situation, c'est le défenseur bastiais Gilles Occhioni.
Stondadourkine, l'Interbiste.
Forcément que ça me fait mal. Moi j'étais revenu en national et on l'a monté jusqu'en Ligue 1, donc on aura le temps de faire le bilan de la saison. On va pas tirer à boulet rouge sur personne. On va mâchetouguer notre déception, notre tristesse. Ce soir on pleurera ensemble dans les chambres, nous qui avons connu quand même pas mal de choses avec ce club. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que avec du cœur on le remontera. En tout cas, on ne sera pas tombé.
Voilà aussi des paroles de Corse, comme dirait, voilà, on ne laissera pas tomber ce club, Nîmes ou pour l'achat ou Sporting. Comme le disait Jean tout à l'heure, évidemment, il va falloir un peu faire la liste de tout ce qui n'a pas été. On l'a fait, hein, on l'a sous les yeux. Si vous voulez, je vous donne un ordre dans le désordre, hein, de ce qui s'est passé. Et puis peut-être qu'après, je vous laisserai choisir ce qui peut avoir causé, ce qui a fait le plus de mal au club. Il y a eu la désaffection du public et la perte importante des abonnés d'entrée. Il y avait déjà une forme de désapprobation par rapport aux dirigeants, ce manque de confiance. La perte d'ambiance dans les tribunes, elle a été importante quand même. Sur le terrain, la perte des valeurs du club et cette perte de points de moins de 33, on le disait tout à l'heure. Le recrutement qui n'a pas été au top, avec des joueurs dont certains sont repartis de suite au mercato, notamment au niveau de l'attaque. Un mercato d'hiver raté d'ailleurs, là où Bastia marquait des points forts. Au lieu de se renforcer, Bastia s'est peut-être affaibli d'ailleurs dans ce mercato d'hiver, avec le départ de Mathieu Pébernès notamment. Les graves et les longues blessures de joueurs cadres, l'explosion des cartons rouges, 14, ce qui est un record. Un changement d'entraîneur peut-être trop tardif, et peut-être inutile, on verra ça tout à l'heure. Les coups d'éclat, voire les coups de folie, les coups de folie des supporters, que ce soit collectivement ou individuellement, ça a coûté des suspensions de tribunes, 6 pour la tribune Est, des matchs délocalisés et un match perdu, celui contre Lyon. La faute à qui avec tout ça? Est-ce que la faute première revient d'abord à ceux qui gèrent, les dirigeants et le staff technique, Pascal? Avant toute chose.
C'est difficile hein, de pointer du doigt.
Enfin, la liste est longue, en tout cas. Comme disait Jean.
Surtout qu'il y a. Alors, on n'est pas tout le temps au Sporting Club de Bastia pour voir ce qui s'y passe. Il y a quand même un malaise général qui. Parce que c'est difficile de dire oui, le recrutement n'avait pas été ce qu'on pouvait espérer, mais franchement, si on regarde en début de saison dernière l'équipe sur le papier, c'est pas celle qui doit nous faire descendre. Il y a des années où on a eu des équipes qui étaient plus faibles, et pourtant, c'est cette année qu'on s'en sort pas. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont passées en coulisses. Malaise avec le coach, malaise les dirigeants et le coach, je ne sais pas exactement. C'est pas possible. Et tout a rejailli après Après, ça entraîne. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est le recrutement, même si on n'avait pas une équipe fabuleuse, qui fait qu'on descende cette année. On a eu des équipes plus faibles et on n'est pas descendu.
Jean Gour, pour vous, il y a un problème de cible et des recrutements,
mais,
que ce soit au niveau de la qualité
non,
des joueurs.
Façon, ce qu'il faut dire, c'est que bon, c'est vrai que c'est un club qui nous appartient à tous, mais c'est aussi une entreprise. Et dans une entreprise, quand à un moment donné ça ne va pas, et, ben, ceux qui doivent au départ, et moi je ne vise pas les nominativement des gens, je veux dire. Moi, j'ai une entreprise, si elle ne va pas, c'est moi qui suis en cause en premier. C'est moi qui recrute les gens, etc. Donc, je pense que c'est les dirigeants actuels sont assez grands pour tirer le bilan. Après, dans un club de foot, que ce n'est pas ma spécialité, loin de là, peut-être que quand ça part, j'avais bien compris ici, quand vous aviez reçu le président Gironi, le président, il n'avait absolument pas le droit de rentrer dans le vestiaire et de parler à l'époque de Ciccolini. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, les relations, elles étaient aussi bonnes que ça. En tout cas, on a commencé à descendre au bout du troisième ou quatrième match, et puis tout est enchaîné, mais certainement, les dirigeants ont leur grande part de responsabilité là-dedans, même s'ils sont chez eux, et quand on dit démission, ben, ils sont patrons, apparemment, ils sont patrons. Donc, s'ils ont envie de rester, ils restent. Hein. À moins que des gens viennent avec un chéquier et achètent les choses.
Hein. Voilà. Alors voilà, par rapport aux nombreuses demandes et des coups de téléphone que nous avons eus, on annonce déjà que la prochaine émission, on a préféré commencer par le bilan sportif à Cruyff Almeida, et que le prochain stand à Dourkine, normalement, les dirigeants du Sporting Club de Bastia, les actuels dirigeants, seront là pour effectivement aussi faire le bilan et de nombreuses questions et des réponses aux nombreuses questions qui s'y posent. Pour rester juste sur le sportif, Jean-Marie, c'est difficile de sortir une responsabilité entre dirigeants, staff technique et joueurs quand il y a une descente comme ça. Est-ce que c'est un problème de recrutement? Est-ce que c'est un problème de mise en place de jeu, de fond de jeu, de tactique de la part d'un coach? Est-ce que c'est des joueurs dans la valeur peut-être remise en cause? Je ne sais pas quel est votre avis de spécialiste.
Il y a un peu tout ça. Mais moi, à un moment donné, je pense que où il faut se pencher sérieusement dessus, c'est sur la politique sportive. On ne peut pas continuer chaque année à recruter 5, 6, 7 joueurs qui ne vont avoir aucune valeur marchande. À un moment donné, ça veut dire qu'on ne pourra pas recruter comme il faut. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, à un moment donné, se pencher plus vers la formation? Parce que maintenant, ça devient de plus en plus difficile dans le football. Tous les clubs arrivent à sortir des jeunes parce qu'ils ont une bonne politique sportive. À partir de, voilà, et nous, on n'arrive pas à le faire, ça. Il y en a un club où il y a peut-être le moins de moyens et on ne s'est jamais penché là-dessus. On ne sort jamais un joueur de chez nous, c'est vrai, parce que là, je vois, après, je pense qu'après KU, ça va être le néant, ça va être. Donc, il faudra, je crois qu'il y a un gros chantier qui se prépare. Il faut vraiment se pencher là-dessus. Et puis après, bon, il y a tellement de choses qui n'ont pas été cette année. Donc, moi, j'englobe tout. Hein. Si on en est arrivé là, c'est que... À chaque, peut-être l'entraîneur, ça a été les dirigeants, les joueurs aussi, les supporters, tout le monde est englobé là-dedans. Mais après, voilà, il va falloir agir différemment.
C'est une spirale qui s'est enclenchée.
Spirale négative, hein, mais encore une fois, je pense que si on veut rebondir, il faudra mettre une autre politique sportive en place.
Est-ce que pour vous, et ça sera la conclusion de cette première partie, avant de recevoir Rui Almeida, avec tout ce qui s'est passé, avec cette chute en deuxième division, c'est la fin d'un cycle? de cette aventure qu'on peut qualifier de belle aventure, engagée par un groupe de dirigeants qui est arrivé à un très mauvais moment, qui a pris une équipe en nationale. Il faut rappeler quand même les deux montées successives, les deux titres de champion de France, les cinq années de Ligue 1 avec des dixièmes places, deux fois une finale de Coupe de la Ligue. Voilà, tout ça peut passer facile non plus. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec ce qui se passe actuellement, et notamment ce divorce avec les supporters, c'est la fin de cette aventure, c'est la fin d'un cycle et qu'il faut se renouveler?
Alors, la fin de l'aventure, je ne sais pas, la fin d'un cycle, oui. Il faut se rappeler, je crois qu'il y a deux saisons, François Modeste, qui avait dit déjà, il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé, parce que sinon... Oui. C'était il y a deux saisons. Hein. Manifestement, les problèmes se sont accumulés. On en est là aujourd'hui, donc... Avec les dirigeants actuels ou avec d'autres, de toute manière, c'est la fin d'un cycle.
Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a de nouveaux dirigeants, il faut que ces derniers prennent en compte.
Je pense qu'il y a un mode de fonctionnement qui doit changer.
Ouais. Jean.
Oui, et puis pour être un peu plus général, le football au Corse cette année, c'est moyen. Et je ne sais pas, en seconde division, les deux clubs se maintiennent, font un championnat moyen. Le CAB, moi, le CAB qui descend, je trouve que ça a un lien avec le football bastiais, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeune du centre de formation de Bastia qui va faire ses armes au CAB. Donc je pense que c'est un tout.
Ça rejoint peut-être la formation.
Exactement, c'est ce qu'il disait, je veux dire.
Quand il y a une relégation comme ça, après, ce qui est important pour les joueurs, dans l'état d'esprit dans lequel ils vont se trouver, c'est qu'ils vont savoir de suite les objectifs du club. Moi, pour avoir connu ça à Ajaccio, pour vous dire que si ça repart n'importe quand... N'importe comment la saison d'après, ça risque d'être compliqué. Et ça risque d'être compliqué, soit parce que quand on est descendu au national, on a refait de suite une équipe compétitive. Là, est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Mais si on veut que les joueurs soient ambitieux, il faudra faire les joueurs qui vont rester. Hein. Il faudra leur montrer qu'on a des ambitions de remonter.
Bien sûr.
Ça aussi, ça en fait partie.
Oui, il y a 7 joueurs qui étaient prêtés et qui ont tous de grandes chances de repartir. Enfin, ils sont dans l'obligation de repartir, sauf là où il y a une option d'achat. Mais en Ligue 2, c'est plus difficile de lever l'option d'achat.
Il faut que les Corses y restent. Ce qu'il a, tu nous fasses une année.
Il y a des joueurs en fin de contrat.
Oui, mais enfin, en fin de contrat chez lui.
Et il y a des joueurs qu'il faut vendre pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, comme on dit. Avec tout ça, ça fait presque une équipe qui s'en va. Quoi.
Pas évident. C'est pas facile.
Oui, peut-être que les dirigeants la semaine prochaine pourront nous dire qui on garde et qui part.
On avait, à un moment donné, on avait une grande ossature corse. Hein. Mmh. Et c'est autour de ça que... Elle y est encore, donc il faut peut-être s'appuyer là-dessus. Hein. Enfin, moi, je pense que ça passe par là aussi. Hein.
Remettre les bonnes et vieilles recettes.
Pour que Caius, il reste, et puis après, qu'il soit capable d'accueillir les autres.
Il faut se donner les moyens au niveau de la formation.
Bien sûr.
Au niveau de la formation, au niveau des infrastructures, tout ça,
la Ligue 2 s'y prête plus à...
Mais sûrement aussi, mais quand des clubs comme Lorient, ils sont pas des grands clubs, mais ils ont des structures. Nous, on est encore au Moyen-Âge, nous. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est difficile de faire progresser des jeunes, de les amener en équipe première. Il faut, que des éducateurs compétents, je ne remets pas en cause. Mais c'est tout un travail qui doit être fait à ce niveau-là, et on a beaucoup de retard par rapport aux autres clubs.
Fin de cette première partie donc de ce stand d'Adourkine avec cette rediffusion, ces extraits de la semaine dernière, ces analyses effectuées donc par les journalistes ou les consultants qui ont participé à notre émission. Dans quelques petites secondes et en direct, cette fois-ci, la deuxième partie de ce stand d'Adourkine de fin de saison en compagnie des dirigeants du Sporting Club de Bastia. Tout de suite.
Benida festidia santé ramuinayachu. Sabado e domenica baspettemo un antau vitu vortu a parte da de giore. Pesparte con voi sto momento di vradelanza. Pescador in festa? Querci FM. RCFM, partenaire officiel de Porto Latine. Programme Souk, Ero, Calypso Rose, Deluxe et Broken Bike. Broken Bike. Porto Latino. C'est mieux comme ça. Porto Latino du 5 au 8 août à Saint-Florent. Renseignements sur portolatino.fr.
h 26 sur RCFM, la deuxième partie de Stand Adourkine en compagnie de nos invités.
Stand Adourkine, l'invitado.
Voilà, en début de saison, on avait fait ce jingle, comme on l'appelle, l'imbidad, parce qu'on recevait un invité par émission. Shtazer Azodoui, on aurait dû préparer l'imbidad. L'imbidad, Shtazer, les dirigeants du Sporting Club de Bastia, Pierre-Marie Geronimi, le président du Sporting, et son vice-président, Joseph Franceschini. Messieurs, bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour ce Standard Urkina, donc de cette fin de saison, exercice difficile que de venir dire les choses, tirer des bilans et surtout assumer ces bilans après une saison difficile, très délicate. Exercice le plus difficile sans doute depuis que vous êtes à la tête du club, messieurs, car c'est celui aussi d'un échec. Le premier, j'allais dire, et quand on dit le premier, forcément, ça veut dire qu'avant, il y a eu des succès, et on pourra les rappeler. Premier échec de votre gestion sportive avec cette descente en Ligue 2. Échec sportif, donc, tout d'abord, après de belles années, mais aussi échec à d'autres niveaux, vous nous le direz, financier, oui, non. Échec humain, si l'on peut dire, avec cette rupture, cette saison avec le public. Certains parlent d'un désamour avec les supporters du Sporting Club de Bastia. On va parler de tout ça, et si vous le voulez bien, en deux parties. La première, on va la consacrer d'abord au bilan de cette saison 2016-2017, et on verra les perspectives ensuite, l'avenir du club. Le bilan, donc, il est vite fait. Le Sporting finit 20e de ce championnat de Ligue 1. Et pour beaucoup, finalement, ce n'est pas une surprise, vu l'accumulation des points négatifs tout au long de la saison, des contrariétés depuis le mois de juin dernier. On en a relevé quelques-unes, des erreurs dans le recrutement, des erreurs de casting, dit-on, dans le recrutement. Évidemment, ça s'est avéré après, avec des joueurs qui ont déçu sportivement, d'autres qui sont même partis avant la fin. On pense notamment à Bifuma ou à Cabral qui a été prêté. Un mercato hivernal qui n'a pas donné aussi ce qu'on aurait pu espérer offensivement. Il n'y a pas eu de renfort. Défensivement, pareil, après la blessure notamment de Toto Schillaci et le départ de Mathieu Pébernès. Le changement d'entraîneur intervenu au mois de février, était-ce utile ou n'était-ce pas trop tard à cette période de l'année? Forcément, des tiraillements dans le groupe, des erreurs de communication. Là, vous aurez à répondre aussi sur cette question-là. Et puis, ce divorce, on le disait, avec le public, la tribune Est en particulier, mais pas que, ce qui a entraîné des tas de mouvements, de protestations, et évidemment, des critiques. Voilà, ça fait une première liste de ces contrariétés, on peut les appeler comme ça, en tout cas, qui sont venues perturber cette saison du Sporting Club, et la vôtre également. Pierre-Marie Geronimi, ces contrariétés, enfin, vous les appelez comme ça, vous les baptisez comme ça aussi, vous les prenez de cette façon-là?
Je ne sais pas, je pense qu'on va faire une émission assez courte, parce que vous venez de tout dire. Donc
non, on va les reprendre donc, point par point.
Après tout ça, il reste plus grand-chose à ajouter.
Si vous voulez, on les reprend.
Alors, on était parti pour juin. À peu près une vingtaine de minutes, et puis finalement, ça ne durera que 5 minutes.
Non, il y a d'autres
certains
questions.
Certains sont... Non, moi, c'est une...
Non, mais c'est vrai que c'était une année plus que noire.
C'est une immense déception. C'est une année noire, c'est un échec. Encore une fois, je répète, une immense déception. Après, genre, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit à la fois. Il faut aller en chercher les raisons, les pourquoi. Alors bon, vous avez commencé à donner une partie des réponses, mais évidemment que pour nous c'est extrêmement difficile.
Ouais. Au niveau des recrutements, effectivement, quand on gère un club et qu'on prend des joueurs, c'est pas évidemment avec l'espoir de se tromper ou de dire cela va pas être bon. On les prend parce que on a de bonnes sources, on a de bonnes indications. Vous ou le staff technique, qui a une partie aussi de la responsabilité avec la cellule recrutement. Est-ce que cette année, au niveau du recrutement, parce que vous reconnaissez vous aussi qu'effectivement, après coup, voilà, il y a eu, comme on dit, quoi qui se baille, si c'est pas sportif, ça a été aussi au niveau des caractères, au niveau moral. Est-ce que cette année, vous assumez par exemple l'intégralité de ces recrutements? Il y a une partie qui revient quand même au staff, une partie à la cellule recrutement. Comment ça s'est passé?
Non, mais on n'est pas là pour dire saison. Une partie revient à la cellule recrutement, une partie au staff.
Mais c'est Bobby, il y a de doute, on n'intègre pas.
C'est un club dans sa globalité. Aujourd'hui, déjà, je ne pense pas que ce qui nous arrive aujourd'hui, ce soit pour une seule raison. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons qui, lorsqu'on va les additionner, font que... Pour parler de recrutement, effectivement, c'est une déception aussi.
On sait qu'un petit club comme difficile le Sporting, recrutement
parce que vous pouvez, on est certain d'avoir pris de bons joueurs, mais qui pour une raison ou une autre n'ont pas eu le rendement espéré. Alors peut-être qu'on a pris des joueurs, c'est vrai, avec dont on pensait qu'ils avaient plus de talent. On a pris des joueurs qui, c'est vrai, n'étaient pas dans l'état d'esprit ou qui n'ont pas bien compris ce qu'était le Sporting Club de Bastia. On a pris des joueurs qui ne se sont pas adaptés au niveau de leur vie de tous les jours. Après, quel que soit le pourquoi et les raisons des uns et des autres, il est clair que le recrutement n'a pas donné satisfaction. Il faut le dire. Même s'il y a eu quelques satisfactions trop rares. On peut parler de Enzo Crivelli qui nous a vraiment amené ce qu'on attendait de lui et qui fait quand même une saison que je trouve moi remarquable parce que c'est un très jeune joueur et dans les difficultés de la saison, il a su répondre présent quand même. Mais c'est vrai que globalement, le recrutement que l'on a fait, que le club a fait, parce qu'encore une fois, il n'est pas question pour nous de dire c'est lui ou c'est eux ou c'est... Le recrutement a dans son ensemble pas donné satisfaction, c'est clair.
Alors voilà, sans rejeter de faute à qui que ce soit, il y a deux points sur lesquels on peut revenir et sur lesquels vous avez déjà vous expliquer. C'est d'une part le nombre de prêts qui, dit-on, a été important au nombre de 7 ces saisons. Donc expliquez
oui,
pourquoi
regardez,
cette
Enzo,
saison.
Enzo, il est prêté puis il fait des bonnes saisons. Alan, il est prêté et puis il fait lui aussi malgré tout une bonne saison, même si ses stats aujourd'hui. Mais on voit que aujourd'hui Alan, il a je pense explosé au niveau de la Liga.
Il a mis deux buts avec
l'équipe
de France.
En jouant au Sporting Club de Bastia. Après, c'est vrai que si on prend le prêt de Lénine Angis, effectivement, ça n'a pas eu les répercussions que l'on aurait aimé. C'est vrai que l'INSEE, lorsqu'on le fait signer à la trêve, il n'a pas le rendement espéré. Voilà. Après, c'est...
mais encore une fois, El Khoutari était positif aussi. Non, dans le côté positif.
El Khoutari, lorsqu'il a été sur pied, fait une très bonne saison parce que c'est quelqu'un qui n'a pas joué pendant pratiquement 12 mois. Et on voit que lorsque ce joueur est au niveau, c'est un vrai joueur de Liga. Mais le recrutement, encore une fois, c'est un exercice extrêmement difficile. Il y a des années où ça nous a fortement réussi. Il y a des années où ça a été peut-être moyen. Et puis cette année, il faut reconnaître que la balance penche plutôt vers le négatif. Ouais. Mais bon... Vous savez, c'est le lot de tous les clubs. Alors, ce n'est absolument pas une excuse de ma part. Mais c'est vrai que dans tous les clubs, il y a des déceptions. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que sur un recrutement, il y ait beaucoup plus de satisfaction que de déception. Et cette année, malheureusement, chez nous, c'est la déception qui a primé.
Ouais, l'autre point sur ces recrutements et sur le mercato, après on passera la page de ces transferts-là, qui a fait que ce que les gens n'ont pas compris, c'est au moment où Bastia était en mauvaise posture et devait se renforcer au mercato d'hiver, au lieu de se renforcer, que ce soit offensivement et défensivement, Bastia a même diminué son potentiel avec le départ de Pep Bernès. Ça, c'était une période et
ça,
un mouvement que les gens n'ont pas compris.
C'est la vie de gens, je dirais, extérieurs au club, au niveau du fait qu'on se soit amputé au niveau défensif. Je veux dire, en interne...
Oui, mais voilà. En face de vous, vous aviez un coach aussi qui, oui, publiquement, vous demandait un renfort.
Mais si on reprend... Vous savez, moi, je revois encore les titres des journaux en début de saison et même certaines paroles ou certaines déclarations des uns ou des autres où on dit que le recrutement a été extraordinaire, qu'offensivement, cette année, ça va être exceptionnel, que l'équipe est nettement meilleure. Ça, c'était après que l'on ait gagné 3-0 à Lorient. Hein. Après, encore une fois, les choses se sont gâtées. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas là pour trouver telle ou telle excuse, mais encore une fois, il n'y a pas qu'une seule raison au fait que cette saison est, on va dire, catastrophique, puisqu'il y a la relégation au bout. Il y a effectivement un recrutement qui n'a pas été à la hauteur. On vient d'en expliquer les raisons. Il y a aussi les blessures qui nous ont fait... Les gens n'en ont pas... La maîtrise, mais lorsqu'un garçon comme Toto manque 6 mois dans la saison, c'est importantissime. Vous pouvez faire tous les recrutements du monde, vous ne remplacez jamais Toto Skilac. Voilà. Lorsque Alexander Djiku se blesse 2 mois ou 3 mois, c'est aussi très important. Lorsque El Kaoutari, lorsqu'il revient, se reblesse, c'est très important. Vous ajoutez donc ces blessures, vous ajoutez la malchance, parce qu'il faut parler aussi de
rajoute,
malchance. Je n'en parlerai que.
Rajoute Boulaya.
Je n'en parlerai que quelques secondes, parce qu'on va dire, non, il se cache derrière. Non, je ne me cache pas. Non,
mais c'est des faits qui sont
derrière.
Tout au long
on a
de la
tiré,
saison,
je crois, 13 ou 14 fois sur les poteaux. Un nombre d'expulsions et donc d'absences sur des matchs clés et sur des matchs importants, invraisemblables. Voilà, si vous rajoutez toutes ces choses-là, mais vous vivez une année catastrophique. Maintenant, ça ne remet pas en cause les responsabilités ni des uns ni des autres. Et nous, en tant que dirigeants, bien entendu que nous sommes aux premières loges.
Une de vos responsabilités aussi, ça a été le changement d'entraîneur à un moment donné. La question que je posais en présentation de cette émission, est-ce que c'était utile à ce moment-là de la saison, fin février, est-ce que ce n'était pas trop tard ?
On l'a fait au même moment, à peu près au même moment l'année dernière, parce qu'on l'avait fait fin janvier.
Ça fait quand même un mois, il y a quand même 3-4 matchs.
Bon, il n'y avait pas tant de matchs de différence que ça. Après, voilà, on va pas revenir sur le fait qu'est-ce que
bon, ça... On peut prendre d'autres exemples. Voilà, Lorient n'a pas changé d'entraîneur. Ils ont gardé Cazone.
Aujourd'hui, certains ont...
Ils sont descendus quand même. Bon.
Certains ont décidé de changer d'entraîneur à telle ou telle époque de la saison. Ça a marché pour certains. Ça ne marche pas pour d'autres. Ça a marché pour nous dans certains cas. Ça n'a pas marché cette année. Maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, la question de nous demander si c'était à refaire ou pas, on ne pourra jamais répondre. Effectivement, en tout cas, la seule chose que l'on peut voir, c'est que ça n'a eu aucune conséquence positive.
Alors, Bastia...
Ça ne remet pas en cause les qualités de Rui Almeida.
Qui sera l'entraîneur pour
notre prochain entraîneur.
Il a le contrat pour les deux prochaines saisons et effectivement il a commencé à discuter avec vous dans le courant de la semaine dernière après le match de Marseille pour préparer cette saison. Peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. La situation aujourd'hui, José Franceschini et Pierre-Marie Jérôme, la situation du Sporting. À la fois sur le plan financier, à la fois sur le plan sportif, et puis après on verra sur le plan de l'équipe dirigeante. On en est où du Sporting aujourd'hui, à l'approche d'une étape importante, c'est la DNCG, c'est la mi-juin.
Le Sporting aujourd'hui, il est dans la position d'un club qui est relégué, donc qui évoluera en Ligue 2 l'année prochaine. Il est dans la position d'un club qui avait budgétisé une 15e place et qui est relégué. Donc effectivement, financièrement, saura son importance. Après, c'est la vie d'un club. On ne sera pas ni le premier ni le dernier club à descendre. On ne sera pas le premier club à éventuellement remonter après. Encore une fois, il faut se soumettre aussi à cette loi du sport. Lorsqu'on est monté de National en Ligue 2, on a pris la place d'un club en Ligue 2. Lorsqu'on est monté de Ligue 2 en Ligue 1, on a pris la place de quelqu'un en Ligue 1. Et on sait très bien, même si ça va faire hurler certains, mais c'est la réalité, il faut prendre cette réalité en compte, qu'on fait partie de ces 10 ou 12 clubs
Exactement.
Le football moderne aujourd'hui, je te coupe, permets, le football moderne aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le financier et le sportif sont intimement liés. Et qui ne sont, ils sont aujourd'hui indissociables, ce qui n'était pas le cas dans les années 70 ou 80. Aujourd'hui, en France, quand vous êtes premier, vous gagnez de l'argent, et quand vous êtes dernier, vous en perdez. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent prétendre de budgétiser une 15e ou une 10e pour les plus fortunés, ou plus, s'il faut, et qui ne se trouvent pas à leur place à la fin du championnat, qui peuvent dire, j'ai gagné quand même de l'argent. Ça n'existe pas. Et donc, on est intimement liés aux financiers. Donc nous, évidemment, quand vous jouez dans la deuxième partie du championnat, c'est-à-dire le maintien, ou voire mieux, bien sûr, on a toujours les ambitions de voir plus haut, mais quand vous budgétisez une 15e place et vous n'y êtes pas, forcément, financièrement, il se passe des choses.
Quand je vous pose cette question, évidemment, c'est parce que voilà, toutes les saisons, il y a la DNCG et tout le monde à Béour.
Le problème, c'est qu'on a fait de ce passage devant la DNCG, même si c'est... On en a fait quasiment... Chaque année, depuis qu'on est au club, une relégation automatique.
Je veux dire, parce que c'est la DNCG qui a pris des décisions.
Je regrette, mais depuis que on est.
Elles étaient provisoires,
Voilà. Oui. Non, mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Elles n'ont été provisoires à chaque fois.
que le temps de vendre des joueurs.
Voilà, c'est le lot de tous les clubs et de toutes les équipes, qu'elles soient aussi peu fortunées que le Sporting, que plus fortunées que le Sporting, à un moment donné, les clubs français, pour équilibrer le budget. On a eu cette discussion des dizaines de fois. Tous les clubs français, je dis bien tous les clubs français, pour équilibrer leur budget, ils doivent vendre leurs joueurs.
Ça sera encore le cas cette année.
Ce sera encore le cas cette année.
Ouais. Un, deux joueurs. Mais bon, la question, elle est tout simplement de savoir, est-ce qu'on risque pas une sanction pour descendre en national? Ça veut dire que
notre travail aujourd'hui, parce que même encore une fois, si sur le terrain c'est terminé, notre travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que lorsqu'on se présentera devant la DNCG, dont le passage et la date restent à déterminer, notre travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça se passe bien.
Voilà, vous êtes en train de préparer ce passage-là. C'est votre mission première.
Aujourd'hui, c'est la mission première des dirigeants, bien entendu.
En même temps que de construire une équipe,
parce qu'il y a beaucoup de terrain, en même temps que peut-être construire une nouvelle organisation, en même temps peut-être que de travailler sur de nouveaux dossiers, en même temps de travailler sur beaucoup, beaucoup de choses à la fois.
Ouais. Reconstruire une équipe, on parlait des prêts tout à l'heure, 7 prêts, avec une descente en Ligue 2, c'est-à-dire qu'il n'y aura pratiquement aucun qui sera conservé, même ceux qui étaient en option d'achat. La vente d'un, deux joueurs, il y a des joueurs en fin de contrat, ça fait pratiquement une équipe entière à remonter.
L'avantage des prêts, c'est que ça ne plombera pas le budget l'année prochaine.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on a la chance, entre guillemets, dans notre malheur, que le nombre de contrats qui restent, contrats Liga, est faible. Et que donc, ce sera évidemment plus facile pour nous pour aller rechercher des joueurs et pour ne pas plomber le budget à venir avec des contrats déjà existants. Parce que lorsque vous avez un contrat, il est valable que vous soyez en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc ça, les joueurs prêtés, quelque part, ça a été un bien. Maintenant, effectivement, avoir 6, 7, 8 prêts, ce n'est pas la panacée. Et effectivement, il faudra peut-être travailler de manière différente sur les années à venir. Maintenant, vous savez, des joueurs, des équipes à reconstruire, il y en a beaucoup. Lorsque vous lisez aujourd'hui les sites sportifs ou les magazines de foot, vous voyez que toutes les équipes, aujourd'hui, chaque intersaison, c'est 7, 8, 9, 10, 12 joueurs à faire venir ou à vendre ou à prêter. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est devenu ça.
C'est pas ce qui vous inquiète.
Non, le prêt, pour moi, je suis pas trop d'accord avec le président. On est souvent d'accord, mais là, je suis pas d'accord. Le prêt, pour moi, il est pas si négatif que ça, même s'il y en a 7, parce que c'est comme une équipe. Je veux dire, il faut 23 joueurs. Pourquoi on a 23 joueurs? Et on a que 11 qui jouent, hein. Donc, les prêts, à un moment donné, ça vient d'où? Ça vient de clubs qui sont généralement beaucoup plus fortunés que nous. Et qui ont besoin de faire jouer des joueurs et de les faire
grandir.
Et quand vous regardez les prêts, les trois noms qu'a cité Pierre-Marie, c'est El Kaoutari, ça a été positif. Saint-Maximin, c'est un joueur d'un niveau exceptionnel.
Et
Enzo Crivelli, il vient d'un club comme Bordeaux et il nous a marqué 10 buts. Et aujourd'hui, il a été en lumière. Donc sur les 7 prêts, vous en avez 3 qui étaient pratiquement des titulaires à part entière. Pas pratiquement, qui étaient des titulaires à part entière. Donc, sur les 7, vous en avez toujours une partie qui sont ou sur le banc ou qui essayent de sortir du lot. Mais vous en avez 3 qui ont réussi le pari de d'éclore au Sporting Club de Bastia. Et par le passé, on a montré que les prêts ont été souvent positifs, même s'il y en avait moins. Mais par contre, ceux qui ont été pris ont été bons. Là, il y en avait plus, forcément. Il y en a toujours quelques-uns qui restent sur le carreau. On ne peut pas les faire jouer tous.
Alors, avant de voir avec vous quel sera l'avenir, on parlait aussi de renforcer, de réorganisation, etc., du Sporting. Et il y a forcément à réorganiser. On en verra les points tout à l'heure. Un dernier mot sur le futur visage de l'équipe bastiaise, même si c'est un peu trop tôt aujourd'hui. Mais Rui Almeida, qui était notre invité la semaine dernière et que vous avez rencontré dans la semaine, il a posé quoi comme jalon? Enfin, au niveau de l'antenne ici sur ce plateau RCFM, il a dit qu'il aurait voulu, il veut garder les joueurs cadres déjà et que l'objectif c'était la montée. Voilà, lui, il s'est affiché tout seul.
Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, la priorité de Rui Almeida, c'est de conserver Toto. Les cadres corses, de toute façon, ils sont sous contrat. Donc, effectivement, la priorité du coach et notre priorité, ce sera de conserver nos cadres. Et c'est de construire
Et de prolonger d'une année Toto Skilac.
Et c'est de construire autour d'eux. Voilà. Après, évidemment que notre volonté la plus forte qui soit, c'est de faire en sorte que le Sporting remonte très rapidement. En tout cas, qu'il ne végète pas 10 années comme il a pu le faire sur son dernier cycle de Ligue 2. Maintenant, il faut être très prudent. Il faut se poser les bonnes questions. D'abord, on a vu que les équipes qui, en Ligue 2 cette année, avaient annoncé vouloir monter, elles sont toutes restées sur le carreau.
Dans le plus gros budget, Reims.
Dans le plus gros budget, Reims. Lorsqu'on voit que Lens, qui est un gros club, lorsqu'on voit que sur les 7 dernières années, Lens a passé 6 ans en Ligue 2. Et lorsqu'on voit que, encore une fois, pour ne parler que de Reims, ou même Sochaux, ou d'autres encore qui avaient annoncé vouloir jouer la montée, okay. On voit qu'aujourd'hui, les clubs qui sont montés, ce sont des clubs qui ne sont pas beaucoup exprimés, mais qui ont beaucoup travaillé, par contre. Des équipes comme Strasbourg, des équipes comme Amiens, des équipes comme Troyes. Et effectivement, on voit que l'argent ne fait pas obligatoirement le bonheur. Alors après, je réentendais quelques brides de l'émission de la semaine dernière, j'entendais parler de formation. Bien sûr qu'il faut faire de la formation, bien sûr qu'il faut accentuer la formation. Mais il est, à un moment donné, on ne peut pas dire, il faut dire les choses, on ne peut pas dire, il faut remonter absolument, parce que si on veut remonter absolument, ça veut dire mettre les moyens pour remonter absolument, et c'est, quelque part, ne pas mettre autant de moyens qu'il le faudrait sur la formation. Alors on peut très bien avoir aussi, je parle à titre personnel, hein, on peut très bien aussi avoir la réflexion, pourquoi pas, oui, essayer de monter, mais tout en construisant. Tout en construisant, tout en faisant de la formation, pour qu'à un moment donné, on ait assez formé, on ait assez de jeunes joueurs, corses ou autres, qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir monter. C'est un choix, c'est un équilibre subtil à trouver, mais il faudra trouver cet équilibre, parce qu'évidemment que le Sporting a toute sa place en Ligue 1, et qu'évidemment, il faudra retrouver la Ligue 1 au plus vite, mais pas n'importe quel prix. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis, pas n'importe quel prix. Parce qu'on ne peut pas nous dire, non, mais il faut faire de la formation, il faut faire jouer les jeunes corses, et puis non, mais il faut monter de suite. C'est-à-dire que le bling-bling de la Ligue 1, ce n'est pas pour nous. Mais voilà, on est toujours dans cette forme de schizophrénie ou de paranoïa qui veut qu'on veut tout et son contraire. On ne peut pas tout faire. Alors, il faut trouver cet équilibre. Effectivement, il faut remonter en Ligue 1 parce que les supporters le méritent, Bastia le mérite, la Corse le mérite, et la place du Sporting, encore une fois, je suis très clair, elle est en Ligue 1, et c'est l'avis de beaucoup de gens, y compris à Paris. Maintenant, il ne faut pas, encore une fois, oublier tout ce qu'est peut-être un club par ailleurs.
Alors, on en vient à la dernière partie de cette émission, et je sais que beaucoup de gens vous attendent sur ce point-là. On est en train de parler du Sporting Club de Bastia, de son avenir, de la prochaine saison Ligue 2, des recrutements, des joueurs. L'entraîneur, lui, il est là, Rui Almeida. Et puis la question qui se pose, c'est, et vous, dans tout ça, Pierre-Marie Gérolmi, peut-être aussi Joseph Franceschini, enfin les dirigeants actuels de la SASP que vous dirigez. Il y a le Sporting Club de Bastia, il y a cette saison, cet échec, et il y a aussi tout un climat lourd, pesant, autour du Sporting, sur vos épaules également. Vous en êtes conscient, évidemment, et beaucoup de gens se posent cette question, en dehors aussi de vos soucis personnels, dont on ne parlera pas ici, mais qui peuvent peser aussi dans vos décisions, Pierre-Marie Gérolmi, c'est... Voilà. Quel est l'avenir de Pierre-Marie Gérolmi?
Non, mais l'important, ce n'est pas l'avenir de Pierre-Marie Gérolmi à la tête du Sporting ou l'avenir de José Franceschini.
Mais un président de club, c'est important.
Ou des dirigeants. Nous, aujourd'hui, on a la responsabilité, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, de le championnat sur le terrain, c'est terminé, mais il y a un autre championnat qui est en train de se préparer, c'est celui de la DNCG, c'est celui de la préparation de la future saison. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça fait 6 mois qu'on parle de ça. Ça fait des mois et des mois qu'on parle de ça. Et moi, je le dis je le dis de manière très franche. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté de parler pendant des mois, des mois et des mois? Cela n'a rien apporté. Alors encore une fois, nous, bien sûr qu'aujourd'hui, on est conscient de beaucoup de choses, parce qu'on n'est pas des, on n'est pas,
il y a quand même un climat de défiance.
On n'est pas bête à ce point. Donc évidemment qu'on est conscient de beaucoup de choses et que évidemment, on a bien conscience que l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui au Sporting Club de Bastia, elle a sûrement fait son temps. Et que notre travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que des choses nouvelles arrivent, qu'une réorganisation se fasse avec nous, sans nous, c'est pas nous. Vous savez, ce qui est important pour nous, c'est le club.
Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir
si ça doit se faire sans nous, ça se fera sans nous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien des gens pour préparer l'intersaison, et qu'aujourd'hui...
Pour l'instant, c'est vous.
Pour l'instant, c'est nous. Donc, encore une fois... Jean, je vais être très très précis. Nous avons bien conscience, et nous travaillons, sur le fait que l'organisation telle qu'elle a été ces dernières années ne peut pas être sur le futur.
C'est la fin d'un cycle.
C'est la fin d'un cycle. Maintenant, la fin d'un cycle, le passage d'un cycle à un autre et d'une situation à un autre, si les gens pensent... Et puis, ça ne se fait pas en 5 minutes.
Mais ça veut dire que vous travaillez à la venue d'autres dirigeants, à l'organisation d'une autre équipe, d'un nouveau président
qui vient d'apprendre la suite. Jean, les personnes qui sont aujourd'hui au Sporting travaillent pour que le Sporting, pour que cette relégation, et puis je veux quand même préciser, la relégation d'un club, ce n'est pas la mort d'un club. Parce que ce qui a été fait pendant 5-6 ans, ça reste. Et vous l'avez dit, beaucoup de choses ont été faites. Donc, ça reste. Donc, il faut pérenniser ce qui a été fait et repartir sur un nouveau cycle. Donc, maintenant, encore une fois, nous, on travaille au fait de rendre le Sporting plus fort, pour que lorsqu'il retrouvera la Ligue 1, il ne reste pas cette fois-ci 4 années de suite, mais 7, 8 ans, 10 ans de suite. Notre responsabilité, c'est celle-là. On se lève pas le matin en disant il faut qu'on reste au Sporting. Non, on se lève le matin, on va au club en disant il faut qu'on rende ce club plus fort. Et si ça doit être sans nous, ce sera sans nous. C'est clair. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes les personnes qui devons travailler dans l'intermède. Parce que si nous, on s'en va aujourd'hui, personne n'est là pour préparer le passage à la DNCG, pour préparer la nouvelle saison, pour discuter avec le coach de ce qu'il veut faire durant son stage de préparation, pour préparer le recrutement, pour préparer à de nouveaux partenaires, pour préparer à de nouvelles rencontres. Voilà.
Mais ça veut dire qu'une fois passé un cap, peut-être que Pierre-Marie Gérone, ce ne sera plus le président du Sporting Club de Bastia.
Mais écoutez, le Sporting Club de Bastia, il est quand même plus vieux.
Je m'adresse à vous.
Il est quand même plus vieux que Pierre-Marie Gérone. Pierre-Marie Gérone, il vient d'avoir 50 ans et il a vécu très longtemps, très 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 longtemps, une grande grande majorité de ses 50 ans sans le Sporting Club de Bastia. Donc Pierre-Marie Gérone, c'est avant tout un supporter et un amoureux du Sporting Club de Bastia.
Vous ne vous approchez pas au fauteuil.
Non. Ou alors c'est mal me connaître et c'est mal nous connaître. Maintenant, par contre, nous sommes des gens responsables.
Mais alors, par exemple, aujourd'hui, nous, l'épisode Frédéric Antonetti, quelqu'un qui s'est déclaré, qui voudrait travailler,
pas,
qui a un projet.
Je ne vais pas revenir sur l'épisode de Frédéric Antonetti. Moi, je me suis déjà exprimé à ce sujet. Je ne vais pas m'exprimer sur l'épisode de Frédéric Antonetti. Moi, avec tout le respect, toute l'estime que j'ai pour Frédéric Antonetti et pour la famille Antonetti, pour moi, le moment était très mal choisi. Je l'ai dit, donc je peux me permettre de le redire. Et encore une fois, je pense qu'il y avait matière à procéder autrement.
Oui, mais maintenant que c'est fait, aujourd'hui, on aurait pu peut-être renouer. Non, c'était trop tard.
Je ne sais pas, d'après ce que j'ai entendu, ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais maintenant, encore une fois...
Vous n'avez pas l'intention de le rappeler pour lui dire non.
Mais on peut rappeler tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, moi j'entends beaucoup de choses, mais par contre, je vois très peu de choses et je touche très peu de choses.
Ouais. Enfin, il se dit aussi, par exemple, dans les choses, que tant que vous êtes là à vous occuper des affaires, il y a des gens qui viendront pas.
Bon, alors, ça c'est ce qu'on va faire, genre, ce soir, en rentrant au stade,
on attend les
José
coups de fil.
Et moi, alors, appelons-nous copains. On va dire, demain, on ne va plus au stade.
Et on
va plus au stade. Et puis, à ce moment-là, il y a la cavalerie qui va arriver à Fouriane et qui va préparer la DNCG, qui va préparer la saison prochaine, qui va préparer le recrutement. Non, mais il faut arrêter
de penser que ça se passe comme ça.
De dire n'importe quoi. On est en train de parler d'une entreprise de 120 salariés. Ouais. On est en train de parler d'une entreprise qui, quand même, l'année prochaine, aura un chiffre d'affaires de 13 ou 14 millions d'euros. On est en train de parler de
vous souhaiteriez que s'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont
c'est simple dans le
solides,
football.
Viennent vous
mais c'est simple
parler avec vous et voir comment
on l'a vu s'organise. Cette année. C'est arrivé à Lille, c'est arrivé à Marseille, c'est arrivé dans des clubs plus petits. Les gens viennent, téléphonent, envoient des lettres d'intention. Voilà, j'aimerais vous rencontrer pour, je suis prêt à faire ça, je veux faire un audit. À ce moment-là, une fois que l'audit est fait, je ferai peut-être ou pas une offre. Et puis voilà, c'est ça. Dans un monde normal, ça se passe comme ça. Mais je peux vous certifier que je parle encore une fois très très librement, je peux vous certifier qu'aujourd'hui, à ce jour, je n'ai reçu aucune lettre d'intention. Aucune.
Coup de fil
aucune lettre d'intention. Maintenant, si on veut me faire croire que ce soir, si je dis bon, demain je vais plus au stade, que des repreneurs vont, vous savez, j'ai même lu sur le quotidien local que j'ai même lu ce que j'appelle moi aujourd'hui l'appel de 17h anonyme. C'est-à-dire qu'il était 17h, et puis le téléphone a sonné à la rédaction de Corse Matin, et quelqu'un d'anonyme a dit « Non mais nous, on pourrait reprendre le Sporting. » On a écrit ça sur le quotidien local. Non mais je veux dire, à un moment donné, il faut je veux dire, ou alors c'était une plaisanterie et on a oublié de nous le dire après. Moi je pense qu'il faut rester sérieux, et surtout, pas sérieux pour Pierre-Marie Geronimi ou pour José Franceschini. Il faut respecter ce club. Il faut respecter ce club, il faut respecter ses salariés, il faut respecter ses joueurs, son environnement, son public. Et respecter ce club, c'est faire les choses en ordre. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils peuvent amener quelque chose au Sporting...
Même sans nous,
je le dis.
Parce que vous
mais des choses sérieuses. Des choses sérieuses. Voilà.
Jean-Franceschini, une conclusion
et
ou pas
une on fois, est au terme de je cette précise émission. Qu'on sera toujours plus à même aujourd'hui de travailler avec des gens qui ont à un moment ou un autre travaillé avec nous, plutôt que des gens qui vont débarquer de nulle part et qui tel le vautour attend que la bête soit... Voilà, non.
S'il y a des gens qui sont sérieux, organisés, qui ont envie de s'occuper du Sporting Club de Bastia, comme on dit, ils n'ont qu'à se faire connaître.
Qu'on se faire connaître avec un vrai projet.
Avec un vrai projet. Moi, je le répète, je l'assume, j'ai déjà dit une fois, je le redis, si c'est pour faire exactement ce qu'on fait, non. Oui,
non,
s'il
mais faut... sans parler de
alors,
ça.
Alors, à la limite, oui, si on s'en va, oui, parce que
non, ça, on peut
c'est
pas
vrai
savoir.
Que...
Bon, okay, sans parler de ça, un vrai projet... Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on compte faire ça. Financièrement, on peut faire ça. Financièrement, on peut aller jusque-là.
Et puis c'est un vrai souhait. Hein.
Voilà. Nous, pour le club. Encore une fois, ce qui nous importe, c'est l'avenir de ce club. Et ceux qui pensent que si ce soir je dis que c'est terminé, demain on ne viendra plus au stade, ben, on a résolu les affaires du Sporting Club Bastia, je le dis, ils se trompent.
Bien, Pierre-Marie Geronimi, Joseph Franceschini, on arrive au terme de cette émission. Vous voyez qu'on a tenu plus de 10 minutes par rapport à la présentation. En tout cas, merci d'être venu participer à ce stand à Dourkin, à cet ultime stand de la semaine. Et puis évidemment, on suivra les affaires du Sporting, et que ce soit au niveau de l'équipe dirigeante ou au niveau de l'équipe sportive. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.
Ouais, merci à vous. Merci.